C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? You talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Eau de Radio en ce mardi 16 décembre 2025. Il est 14h. Pile, quasiment. Oui, encore, comme hier et comme demain sans doute. Noël arrive à grands pas et le nouvel an aussi. Et pour fêter ces fêtes de fin d'année, avec moi en studio, le lutin le plus mytho de tout le Groenland. Bonjour Jean-Jacques.
Qu'est-ce que c'est cette histoire?
Vous allez bien?
Bonjour Anne-Lise.
Oui.
Je suis le mytho du Groenland.
Ah, vous aimez bien raconter des histoires,
oui,
quand même.
Mais comme le Groenland, je suis libre et indépendant.
C'est vrai, voilà. Peut-être.
Bonjour.
Bonjour. Mais aussi le lutin qui raconte autant d'histoires, qui nous offre de cadeaux.
Lutins.
Bonjour Patrick.
Bonjour Adelise. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Et de quel cadeau parlez-vous à part mon auguste présence?
Bah voilà, déjà, c'est
déjà un cadeau. En soi.
Bon alors.
Et Patrick, aujourd'hui, oui, pour le 11e épisode de Ciné-100, vers où nous dirigeons-nous nos objectifs?
Alors nous allons aborder ces films qui provoquent deux types de réactions chez le public. Les « Oh,
oh. »
attendris.
Oh.
Et des « Mais pourquoi ai-je pleuré devant un cochon ?»
Sniff.
Oui, 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 parce que c'est bien de vous dont je parle, fan de Babe. Hein, parce qu'il faut bien le dire, les films avec les animaux, c'est un peu comme la recette secrète de la tarte aux pommes de grand-mère. Une bonne dose d'émotion, une pincée d'aventure et surtout, un animal qui finit toujours par voler la scène. Sérieusement, avez-vous déjà vu un humain voler la vedette à un chien qui sait regarder la caméra comme s'il lisait votre âme?
Non.
Non, bah non, non, parce que c'est impossible. Voilà. Côté intrigue, le schéma est simple et efficace. Un animal perdu, paf, qui provoque un chaos adorable, paf, qui provoque un humain qui devient intelligent, paf. Et ça marche à tous les coups. Et si vous pensez que ce sont toujours des histoires mignonnes, rappelez-vous de Sauver Willy. Hein, émotion garantie avec le maillot de bain en prime. Et puis, il y a les stars inattendues, le chat qui planifie secrètement la chute d'un vase, le hamster qui se prend pour un cascadeur, le cheval qui a plus de charisme qu'un politicien en campagne. Bref, les animaux ont ce talent de transformer le banal en mémorable. Un regard, un reniflement, une maladresse et hop, une scène culte. Pour les parents, ces films sont une arme secrète. Besoin de paix pour le dîner? Allez, on lance le roi lion. Et besoin d'une leçon de compassion? Et hop, Anna Chico, et tout le monde pleure ensemble, y compris mamie de la tarte, qui prétend ne jamais verser une larme. Mais attention, attention, tourner avec des animaux, c'est aussi accepter l'imprévu. Des prises parfaites ont souvent un petit supplément d'improvisation. Un chien qui décide de faire sa propre entrée, un canard qui refuse la chorégraphie, et parfois, ben c'est la meilleure prise. Alors, ce soir, hein, en famille, installez-vous confortablement et regardez un film où le héros a quatre pattes, deux ailes ou un bec même, tiens. Parce que, après tout, qui peut nous en apprendre sur le courage, la loyauté et la technique infaillible pour demander une friandise en inclinant la tête, hein?
Oh.
Bah, allez, en avant pour une plongée dans le monde animal. Ah, je vous reconnais, Jean-Jacques.
Bon alors, remake du film d'animation Disney du même nom sorti en 61, Les 101 Dalmatiens, réalisé par Stéphane Erec, sorti en 96, raconte l'histoire d'un couple de
Dalmatiens,
Pongo et Perdita, et de leurs 15 chiots convoités par l'infâme Cruella de Vil, une créatrice de mode bien décidée à les utiliser pour se confectionner un manteau.
Cette adaptation suit très fidèlement le scénario de l'originel. Mais doit son succès à la performance de Glenn Close dans, oui, le rôle de Cruella, qui est absolument exceptionnel. Acclamé tant par le public que par la critique, Pongo, Perdita et les autres Dalmatiens sont pour leur part tous incarnés par de véritables acteurs canins qui ne déméritent pas non plus.
Donc,
oui,
Pongo et Perdita, superbes Dalmatiens, vivent à Londres avec leurs maîtres respectifs, Roger, concepteur de jeux vidéo, et Anita, dessinatrice de mode pour la maison de couture de Cruella de Vil. Lorsqu'ils se croisent au parc, eh ben c'est le coup de foudre, autant pour les chiens que pour les maîtres d'ailleurs. Et c'est ainsi que quelques mois plus tard naissent 15 chiots. Mais lorsque Cruella de Vil, obsédée par la fourrure, les découvre, elle décide de les kidnapper. Pongo et Perdita doivent alors rallier les animaux de la ville pour les sauver. Extrait.
Où sont les bébés? Ils doivent être nés maintenant. Oh, le diable les emporte, des bâtards! Ils sont moches! Ils n'ont pas de tâches! Ces horreurs n'ont pas la moindre tâche!
Mais les tâches viennent plus tard, ils n'en ont pas à la naissance.
Vous en êtes sûre?
Et certaine?
À la bonne heure. Mettez-les-moi dans un sac, je prends toute la portée.
Mais enfin, ils viennent de naître.
Je sais qu'ils viennent de naître.
Voyons, Cruella, les bébés ne doivent pas quitter leur mère avant d'être sevrés. Ça prend plusieurs semaines.
Alors, mettez-moi ces petits monstres de côté, combien voulez-vous du lot?
Ils ne sont pas à vendre.
Oh, vous avez touché un peu d'argent, sans doute. Avez-vous conçu un de ces jeux débilitants qui font de nos jeunes délinquants de furieux vidéophages?
Parfaitement.
Non, Roger, vous expliquez que... C'est simple, nous ne savons pas encore si nous les vendrons.
Anita, ne soyez pas ridicule. Vous n'avez pas les moyens de les garder. Je suis prête à les payer deux fois leur valeur. Je m'étonne de ma générosité. J'offre 500 livres par chiot. Ce qui vous fera en tout la bagatelle de 7500 livres. Hein. Ça paye mieux que le jeu vidéo.
Mais Cruella, qu'est-ce que vous comptez faire de 15 bébés chiots?
Là n'est pas la question. Elle n'en achètera aucun parce que les chiots ne sont pas à vendre.
Je commence à n'avoir plus qu'à cette voix. Roland.
Roger.
Oui, bon, ça va.
Cruella, ces bébés chiens ne sont pas à vendre.
Êtes-vous certaine?
Certains. Un peu plus stressant que le dessin animé originel, ce film reprend son scénario avec quelques petites différences notables. Par exemple, le créateur de jeux vidéo, c'est plus tendance. Hein. Et toujours avec des scènes tendues, mais plus agressives que dans le dessin animé. Attention, il y a un fort risque que vos enfants demandent d'avoir des dalmatiens à la maison après le visionnage. Faites gaffe.
La distribution comprend donc Glenn Close dans le rôle de Cruella de Vil, mais aussi Jeff Daniels qui interprète Roger Dearley, Jolie Richardson dans le rôle d'Anita Dearley et aussi Joan Plowright et Hugh Laurie. Côté comptable, le film enregistrera plus de 320 millions de recettes dans le monde entier.
Bon, est-ce qu'on a les noms des chiens?
Non.
Allez les chercher, je crois qu'ils sont dispo sur Internet.
D'accord.
D'ailleurs, ils étaient beaucoup plus nombreux que 15, ils ont tourné.
Bon, Annelise, calmez-vous, s'il vous plaît.
Voilà. Dites donc.
Calmez-vous, parce qu'il y a un bémol tout de même à cette réussite. Oui. Les organisations de défense des droits des animaux ont protesté contre la sortie du film, affirmant que les ventes de dalmatiens avaient explosé après sa diffusion, alimentées par des achats impulsifs de chiots par des parents pour leurs enfants. Mal préparé à s'occuper d'une race de chiens relativement difficile une fois qu'ils étaient chiots, nombre de ces nouveaux propriétaires ont fini par quoi ? Eh bien, par abandonner leurs animaux dans des refuges où beaucoup de chiens ont été euthanasiés.
Eh oui. Et sans transition, la musique est signée Michael Kamen.
Thank you.
Alors, c'est un film franco-américain réalisé par Jean-Jacques Haneau, sorti en 1988. Il s'agit d'une adaptation du célèbre roman de l'écrivain américain James Oliver Curwood, Le Grizzly, publié en 1916 et souvent réédité depuis. Eh bien, de quoi parlez-vous ?
Eh bien, nous sommes en Colombie-Britannique. Oui, on va en parler ensemble. Nous sommes en Colombie-Britannique en 1885. Un ourson et sa mère creusent dans les rochers pour y trouver du miel. Et quand la mère meurt sous une avalanche de pierres, ben, le petit animal se retrouve seul, livré à lui-même. Alors, il se met à errer à travers les forêts et les montagnes. Et Jean-Jacques Haneau, lui, ben, nous fait une démonstration de cinéma. Les images sont magnifiques et parlent d'elles-mêmes. Oui. Il n'y a presque aucun dialogue et pourtant, chacun peut suivre l'aventure jusqu'à rentrer dans l'esprit très anthropomorphe, hein, soit-il, des ours. Cela donne plus de force aux événements, comme lorsque le plus jeune chasseur pose la main sur le canon du fusil du plus vieux et lui baisse. Celui-ci pose son fusil et tous deux regardent sans un mot au loin. Tout est dans le geste et dans l'image. La moindre parole ne pourrait qu'affaiblir l'instant. Écoutez une interview menée par Christine Krent dans laquelle Jean-Jacques Haneau revient sur son film.
Jean-Jacques Haneau, pourquoi ce thème et pourquoi ce héros ?
J'avais envie de parler de ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, c'est-à-dire nos réactions instinctives. Et quoi mieux qu'un jeune animal et quoi mieux qu'un ourson pour exprimer ses instincts ?
Mieux que des humains ?
Oui, parce qu'on peut se laisser aller plus loin. C'est très difficile de ne pas avoir de pudeur avec les hommes. Avec un animal, on peut le laisser vivre et le regarder et s'émouvoir avec lui sans aucune retenue.
Mais le danger n'est-il pas de leur prêter en fait nos intentions, nos sentiments, même nos regards ?
Non, c'est parce que nous avons très souvent un comportement animal que nous nous identifions. Il n'est pas du tout nécessaire de dire à un ourson « fais comme moi, marche ». Les oursons passent leur temps debout, très souvent. Même chose pour les grands ours. Ce sont des animaux très anthropomorphiques, très très voisins de nous dans le comportement.
Alors le plus difficile dans ce film, les ours ou les hommes ?
Oh, les hommes ont été adorables. Non. Les ours étaient très gentils aussi. On les mettait en cage le soir et tout le monde allait manger tranquille.
Oui, à vérifier quand même. Alors on sait que Jean-Jacques Haneau est le réalisateur des Défis insensés. Et l'ours est un des fleurons de sa filmographie. Un peu à l'instar de La Guerre du Feu, vous serez d'accord avec moi.
Ah oui.
Paris incroyable donc d'aller shooter en décor naturel des bêtes sauvages peu faciles à manipuler. Il s'est entouré d'une solide équipe pour y parvenir, avec au scénario Gérard Braque, qui adapte le roman d'ailleurs, Claude Berry et sa société Rennes Productions à la prod, Philippe Rousselot à la photo et surtout l'élite des dresseurs hexagonaux, comprenant Jean-Philippe Varin pour les ours, Mario Luracci pour les chevaux et Thierry Le Portier pour le puma. Et pour le tournage, en plus de la Douce, la figure principale du film, ce sont 12 oursons qui ont été élevés et dressés dans une nurserie. Et je crois, Annelise, que nous avons quelques nouvelles d'eux.
Oui, car après le tournage, ils ont été introduits dans divers parcs zoologiques. Ah. La Douce est retournée à Sainte-Montaigne, dans la propriété de Jean-Philippe Varin. Mm-hmm. Les autres oursons habitent dans les parcs zoologiques de Saint-Martin-la-Plaine, celui de Beauval en France, dans le zoo de Linz en Autriche, ainsi que le parc zoologique de Limbourg en Belgique.
Ah, ils ne se voient plus alors ?
Non, ils ne se voient plus, ils ont été séparés.
Oui, d'accord.
Oui.
Alors l'occasion nous est donnée de rappeler que l'ours est un animal sauvage qui peut se montrer dangereux.
Voilà,
quand même,
c'est là que je voulais en venir.
Ça, hein. Ainsi, lors du tournage, Jean-Jacques Haneau a failli être tué par Bart, un animal de 2,80 m qui l'a violemment frappé et l'a fait tomber à terre. Le réalisateur a eu pour réflexe de faire le mort, ce qui l'a sauvé.
Eh ben, dis donc.
Le film plébiscité par le public remportera 2 Césars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur montage. Et la musique a été confiée à Philippe Sard. Thank you.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année.
Ah bon,
moi, je trouve que c'est dingue.
C'est dingue.
C'est dingue, on a fait pire même. Hein. Bon, alors, il fait froid dehors. L'occasion nous est donnée de rester chez soi, de s'asseoir sur son canapé et de regarder un film.
C'est une bonne idée.
Et toute la semaine prochaine, comme ça. Mais comme il y a un film ou plusieurs par jour, nous, on n'en a pris qu'un pour la semaine.
Oui.
Oui.
Et on va le conseiller à nos auditeurs, à nos auditrices. Et on va commencer par Patrick.
Alors, on va commencer par Patrick, d'accord. Le 1 ou le 2?
Le 2.
Le 1. 2.
Ah, faut savoir, le 1 et demi, j'en ai pas.
Le 1.
Alors le 1, d'accord, si vous voulez. Je les aime bien tous les deux, de toute façon. Alors le 1, c'est une comédie dramatique française.
Ah bon ?
Tournée en 1960.
Ah. Oula.
Réalisée par Henri Verneuil.
Oula. Avec Jean-Paul Belmondo.
Avec Jean Gabin, Bernard Blier, René Faure et Alfred Adam.
Non, je vois pas.
Un des plus grands rôles de Jean Gabin. Franchement.
Le président ?
Le président, absolument.
D'accord.
Président du Conseil, Émile Beaufort doit faire une dévaluation. Son secrétaire, Philippe Chalamon, trahit le secret, permettant à son beau-père banquier une fructueuse spéculation.
Une fructueuse.
C'est juste après névruse.
C'est une maladie bovine.
Absolument. Et Beaufort fait donc signer à Chalamon une lettre où il reconnaît son forfait. Mis en minorité, Beaufort se retire de la vie politique après un fracassant et extraordinaire discours à la Chambre. Longtemps après, nouvelle crise ministérielle et Chalamon, qui fait une brillante carrière politique, est pressenté pour former le cabinet. Mais avant d'accepter, il doit récupérer le dossier compromettant que la police a cherché en vain malgré la complicité de mademoiselle Millerand, la secrétaire personnelle de Beaufort. Alors là, on a une opposition classique entre deux personnages très forts. Bernard Blier qui est veule à souhait.
Chalamon. Oui.
Et Chalamon, dans le rôle de Chalamon. Et un Émile Beaufort qui est joué magnifiquement, mais vraiment magnifiquement par Jean Gabin. Je vous recommande particulièrement la séquence du discours à l'Assemblée, c'est prodigieux, c'est un grand moment de théâtre.
Un député de l'opposition qui dit « Beaufort, vous sentez le fromage
». Mais c'est, voilà, c'est, oui, et puis il y a aussi, voilà, mais c'est, voilà. Et il y a des animaux, il y a des poissons volants, mais ça ne font pas la majorité des cas.
Bon, mais c'est
et,
un bon
film. C'est un très, 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 très bon film. Et c'est donc bien. Samedi, mais quand même que je vous dise, c'est samedi, à 21h, sur quoi ?
À quelle heure ?
À 21h ?
Oui.
Sur Public Sénat, bien sûr.
Ah ben, évidemment, ça ne pouvait pas être autrement, oui. Anne-Lise, vous avez quelque chose ?
Oui, moi, lundi, sur France 4, à 21h05,
d'accord.
J'ai un des plus beaux films, pour moi, d'animation des studios Ghibli et de Hayao Miyazaki. C'est Princesse Mononoke, qui est sorti en 97.
Ah, oui.
C'est l'histoire, c'est au temps des dieux et des démons, les rares endroits où l'homme n'a pas tout saccagé sont protégés par des créatures immenses, des dieux. Et un jour, dans le village des Amishi, celui-ci est attaqué par un immense sanglier, le prince Ashitaka sort et se tue le sanglier, mais il est blessé lors de ce combat et il doit alors quitter le village pour aller chercher et essayer de faire en sorte que le village ne soit plus possédé. Et il va donc rencontrer une princesse assez incroyable, c'est la princesse Mononoke. Et c'est un film d'animation qui est absolument magnifique.
D'accord.
Vraiment très très beau.
C'est un film pour les enfants, non ?
Alors c'est un film pour les enfants, mais je dirais 7 ans, à partir de 7 ans. Alors je sais pas.
Jusqu'à 77.
Mais il est assez violent en fait.
Oui.
C'est assez dur, le propos est assez dur. Il y a une vraie fresque, alors souvent chez Miyazaki, hein, autour de l'écologie et de l'impact qu'on a sur la nature et ce qu'on peut provoquer comme malheur, ouais, comme dégâts.
Et c'est à quelle heure ?
Et c'est à 21h05 sur France 4.
D'accord.
Bon, alors moi, je vous propose demain soir, à 21h05, sur Canaplus, grand écran.
Ah.
Si je vous dis Western,
oui.
92,
oui.
Clint Eastwood,
oui. Impitoyable.
Impitoyable. Voilà. Alors, nous faisons un retour dans le Kansas des années 1880.
Incroyable.
Et Impitoyable, c'était la réputation qu'avait William Murney, je crois qu'il s'appelait, Murney, qui était un hors-la-loi très recherché, mais qui a décidé de se
rapprocher
et de s'occuper de la ferme, comme il l'avait promis à sa femme disparue il y a quelque temps de ça. Et dans un village du Kansas aussi, il y a un cow-boy très sadique et qui défigure une prostituée avec l'accord et l'aide du shérif du village, d'ailleurs. Et Clint Eastwood, alias William Murney, ne va pas supporter ça, il va intervenir. mais je vous laisse découvrir pourquoi et comment. Voilà, c'est avec Clint Eastwood, Morgan Freeman, Richard Harris et l'incroyable, magnifique Gene Hackman dans le rôle du cow-boy sadique. Voilà,
ce qui n'est pas très étonnant de sa part.
Non, c'est demain soir à 21h05 sur Canal+, grand écran.
Grand écran.
Bien, on continue alors.
Allez, allez-y.
Allez, depuis la mort de son père, Brandy Delacour dirige seule une ferme réserve au Tanganyika.
Oula, vous allez me le refaire.
Eh ben, Tanganyika.
Tanganyika.
Tanganyika. Tanganyika.
Tanganyika.
Oui, voilà.
Nika.
Oui. Nika.
Ouais. Assistée par une bande de casse-coups.
De casse-coups.
Oui, de casse-coups. Elle capture des bêtes sauvages qu'elle revend ensuite au parc zoologique du monde entier. Mmh. Arrive un jour, une jeune photographe italienne, Dallas, venue faire un reportage sur la faune locale. Sam Mercer, le chef de l'équipe, un géant bourru qui ne jure que par la camaraderie virile, ne tarde pas à tomber sous son charme.
Alors c'est en 62 qu'Howard Hawks réalise le film d'aventure Atari, avec à l'affiche John Wayne, qui joue le bourru Mercer dont on vient de parler, Hardy Krueger, Elsa Martinelli, Red Buttons, Gérard Blin. Ouais. Voilà donc un casting international qui aura fait face à de sacrés dangers lors du tournage plutôt sauvage, en compagnie d'animaux exotiques, on va dire. Alors, Sean Mercer dirige donc une équipe de chasseurs de grands fauves et d'animaux sauvages. L'existence de ce groupe d'hommes d'origine diverse, hein. Sean Pocket, c'est le vétéran Little Wolf, alias l'Indien, son Américain. Kurt est allemand. Chips, c'est français. Et Louis est espagnol. Un groupe qui pourrait être sans histoire. En effet, ils connaissent et aiment leur travail en vrai professionnel. Rhinocéros, singes, éléphants n'ont guère de secret pour eux et les capturer ne va pas sans mal, certes, mais ne comporte pas de difficultés qu'ils ne sachent les uns et les autres surmonter.
Mais seulement, voilà.
Et oui.
Il y a les femmes.
Oh.
Hein, et ça, c'est une espèce dont il est bien difficile de prévoir les réactions.
Oui.
Brandy, par exemple, que Kurt et Chips ne savent pas comment prendre dans leur filet, qui finira par tomber dans celui de Pocket, le moins séduisant et le moins entreprenant d'équipe.
Lorsqu'arrive la photographe italienne Dallas, la stylée Elsa Martinelli, rien ne va plus. Sean découvre dans son lit, elle lui demande à brûle-pourpoint comment il aime embrasser. Mmh. Elle sauve un bébé éléphant que Sean allait tuer et lui trouve deux compagnons de jeu, deux autres bébés éléphants pour le biberon dans lesquels elle mobilise un troupeau de chèvres, bref, tout et n'importe quoi.
Oui.
Assez, quoi qu'il en soit, pour que Sean succombe enfin au charme incompréhensible de Dallas et l'épouse. Dans une interview, Gérard Blin évoque John Wayne et, pour commencer, Howard Hawks.
J'ai été très surpris parce que je m'attendais à trouver un homme très laborieux, qui prépare, qui élabore beaucoup son travail, qui sait exactement où il va et tout ça, tandis que j'ai trouvé le contraire. Au fond, il change complètement tout à la dernière minute, il intervertit les répliques, il écrit des nouvelles scènes, il ne sait pas du tout quand il arrive le matin sur le plateau, 9 fois sur 10, il ne savait pas ce qu'il allait tourner, il improvisait. Ben, Hawks est un homme très, très, très froid, très calme, très solitaire, assez renfermé, qui ne se livre pas beaucoup. Au fond, il n'y a pas beaucoup de contacts, vous voyez. John Wayne, c'est le grand américain cow-boy. C'est le shérif.
Mais dans ses films.
Oui, bah dans la vie aussi, c'est le shérif. C'est le traditionnel américain, vous voyez, avec tout ce que ça comporte. Quelque temps, il y avait eu cette exécution qui avait fait beaucoup de bruit, le Chessman, vous savez, en Europe. Et j'en parlais avec Wayne un jour, comme ça, je lui disais quand même pourquoi est-ce qu'on a tué Chessman après l'avoir laissé 12 ans. Enfin, quand il a été tué, c'était plus le même homme, au fond, 12 ans après,
au moment de sa condamnation.
Au moment de sa condamnation, c'était plus du tout le même homme. Pourquoi là? Et alors, il est devenu furieux, mais comment? Mais pas du tout. Et moi, si j'avais pu, je l'aurais étranglé de mes propres mains. C'est absolument le réactionnaire américain, oui.
Il n'y avait pas d'affinité personnelle.
Aucune affinité, alors. Non.
Bah comme ça, c'est bien.
Ça s'est dit. Hein.
C'est pas une fausse réputation.
Quoi. Ouais, tout à fait.
Alors revenons au film Atari, film d'aventure, loin des circuits imposés. Il a gagné ses galons de longs métrages cultes. Howard Hawks a renouvelé le film d'aventure africaine hollywoodienne par un plus grand souci d'authenticité. Pardon. Le film a été tourné sur place au Tanganyika, la partie continentale de l'actuelle Tanzanie. Les acteurs jouent eux-mêmes les scènes d'action, parfois assez dangereuses et sans doublure.
Hawks a convoqué de nombreux animaux dressés et apprivoisés, tels que des guépards et des girafes, mais pas seulement. En effet, des animaux sauvages de la région ont eu aussi leur mot à dire. C'est ainsi que John Wayne tua au moins un éléphant sur le tournage.
Ah bah super.
Un plan particulièrement abject montre ainsi qu'un éléphant qui protégeait sa horde recevoir une balle dans la tête, faire demi-tour, terrifié. Le plan n'est pas truqué, non. On voit bien la balle atteindre l'animal en haut de la trompe, près de l'œil droit. Il s'arrête net et fait demi-tour, blessé seulement. Et pour qu'une telle attaque ait pu être filmée, bah, on peut supposer qu'elle ait fut répétée.
Oui.
Je vous laisse méditer là-dessus. On fait pas des œufs sans casser des omelettes.
Ouais.
Et la musique d'Henri Mancini respecte les sonorités africaines.
Dans les années 20, dans les forêts du nord du Cambodge, deux jeunes frères tigres naissent loin de toute civilisation, dans les ruines d'un temple khmer à la splendeur passée.
Alors qu'ils grandissent tranquillement dans leur milieu naturel, les deux petits tigres voient leur destin bouleversé par la volonté des hommes, chasseurs et pilleurs venus chercher quelques statues des temples d'Angkor. Les deux frères capturés seront séparés puis vendus. L'un appelé Changa, un prince local, et l'autre appelé Kumal, à un cirque. Et voici un résumé succinct du film.
Dans un temple de la jungle, que l'on pouvait croire oublié à jamais, il était une fois deux frères. L'un était doux et timide. L'autre était audacieux et féroce. Un jour, le destin les sépare. Le premier rencontre le monde des hommes par la faute d'un chasseur.
Il va falloir que t'apprennes à faire des concessions.
Le second est recueilli par un enfant. Adulte, les deux frères se retrouvent face à face dans une arène pour satisfaire la cruauté des hommes. Ils feront tout pour reconquérir leur liberté. Deux frères, le film événement de Jean-Jacques Hano.
Alors, Deux Frères, bon, c'est un très bon film de Jean-Jacques Hano.
Oui,
on est d'accord. Oui. Qui, après le blockbuster hollywoodien Stalingrad en 2001, revient dans le genre du film animalier, notamment comme il l'avait fait avec L'Ours, en faisant cette fois-ci un film sur deux frères tigres tentant de survivre de la cruauté du monde des hommes. L'histoire retrace la vie des deux tigres qui se retrouveront capturés par des pilleurs de temples, dont on l'a dit, en plus d'être séparés, avant de se retrouver dans un combat à mort dans une arène.
La force du film vient surtout des deux tigres attachants et touchants et qui ont une personnalité différente, comme on l'a entendu, Shanghai, naïf et gentil. Ils se retrouvent à être un tigre domestique, tandis que Kumal, intrépide et chasseur, va être envoyé dans un cirque.
On a donc une personnification des deux tigres sans aucun dialogue. Et on a droit à des scènes touchantes, notamment avec le point d'orgue où les deux se retrouvent dans l'arène et finissent par jouer quand ils se reconnaissent comme durant l'époque de leur enfance, ainsi que la scène finale où les tigres vivent en harmonie avec d'autres tigres.
Dans les années 80, alors qu'il travaillait sur L'Ours, Jean-Jacques Hano se rendait régulièrement dans des zoos pour trouver l'animal qu'il voulait mettre en vedette. Il était alors toujours fasciné par le regard des tigres, même s'il choisit finalement L'Ours. Mais il gardait toujours le félin dans un coin de sa tête, enfin l'image du félin, pas le félin.
Et tout du félin fait l'autre.
Oui, merci.
Et avant l'écriture du scénario, Hano s'est rendu dans une réserve du Rajasthan pour observer une trentaine de fauves en compagnie des meilleurs spécialistes du tigre asiatique.
Et pour ce qui est du bien-être animal, tout était conçu pour les tigres. Un hôtel pour tigres fut ainsi créé, où les bêtes étaient rassemblées entre elles. Sécurité oblige, chaque félin avait son propre moyen de transport pour se diriger d'un lieu de tournage à un autre. Le film a totalisé plus de 62 millions de dollars de recettes dans le monde entier pour un budget de près de 60 millions.
Équilibré.
Hein, c'est à peu près équilibré, oui. La musique est due au Britannique Stephen Warbeck. La bande originale comprend aussi La Vergine, Dieli Agnelli, tiré de l'opéra La Force du Destin de Giuseppe Verdi.
Thank you.
pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Sur 91.3, eau de radio, bien entendu.
Bon, il n'y a pas à dire, Verdi, c'est quand même beau.
Ah, ouais. C'est magnifique.
C'est absolument ouais. magnifique. C'est, ça, ça transporte, c'est on entend des anges qui montaient dans tout le ciel, c'était magnifique. Prenez La Vache et le Prisonnier.
Ah, c'est autre chose. Ah.
Little, oui, on va changer de registre. Little Miss Sunshine et Une histoire vraie de David Lynch, et vous obtiendrez le road movie La Vache, sorti en 2016. En tout cas, ce sont les trois films qui ont marqué le réalisateur Mohamed Hamidi pour faire son long métrage. Petit résumé, Jean-Jacques ?
Oui, alors Fatah, un petit paysan algérien, n'a Dieu que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'amener à Paris au Salon de l'agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n'a jamais quitté sa campagne, il prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles, bande-annonce.
Jean-Jacques Hano, pourquoi ce thème et pourquoi ce
ça, héros c'est pas... Jean-Jacques Hano, il est parti.
Profond en nous-mêmes, par c'est-à-dire petit problème technique.
Oui,
on va chanter, on va remettre Verdi.
Ouais, donc c'est La Vache et le Prisonnier, on est d'accord. Hein? Little Sunshine, une histoire vraie qui ont inspiré à Mohamed Hamidi.
Voilà. Tout à fait.
La Vache et le...
Donc
ce sera
la piste 11, hein, logiquement.
Tout à fait.
Ah, tiens.
C'est parti. Monsieur Black,
oui.
Comme tous les ans, vous avez fait une demande de participation au Salon de l'agriculture.
Je vais te mettre de la crème.
La direction du salon a décidé de vous inviter, vous et votre vache Jacqueline.
Quand tu es à Marseille, tu appelles mon frère Hassan.
Bonjour.
Qui c'est
un porteur de...
Je suis son bon frère.
Non, non, non. T'as amené ta vache.
On se pose.
Vas-y, dégage. Foute la honte avec ta vache et tes sacoches.
Regarde, Professeur Jacqueline, je vais faire des cauchemars.
Vous savez écrire ?
Oui, en détaché.
Ma chérie.
Ah non, pas ma chérie, oh. C'est ma femme. La honte quand même.
Il s'appelle Fatah Belabès. Et depuis plus de 20 jours, il traverse la France, écoutez bien, à pied. On ne voit que lui sur la toile.
Le type, grave. Depuis que t'es passé à la télévision, t'es devenu une star, mon frère.
T'es prêt pour Michel Sardou ou quoi?
Mais attention, s'il n'arrive pas avant le début du concours, il ne pourra plus participer.
On est sur le périphérique, là. Ça bouge un peu, mais on va pas tarder. Qu'est-ce que je fous, là, moi? Pleine campagne avec le duc de Winchester et Chap Challenge.
C'est comme on dit qu'il veut voyager loin.
Et l'acheter une voiture.
Alors, selon Voyage pédestre et l'occasion pour Fatah et Jacqueline d'aller de rencontres en surprise et de vivre une aventure humaine, fait de grands moments d'entraide et de fou rire. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d'aujourd'hui. Le réalisateur Mohamed Hamidi connaissait bien les campagnes françaises parce que, à 17 ans, il y était animateur de colonies. Et par ailleurs, le comédien Fatsa Bouyamed, qui tient le rôle de Fatah, lui avait parlé de l'un de ses oncles passionnés d'agronomie et qui lui demandait régulièrement des informations sur le Salon de l'agriculture qu'il aurait adoré visiter.
Alors, outre Fatsa Bouyamed, la distribution comprend également Lambert Wilson et Jamel Debbouze, qu'on a entendu vaguement dans l'extrait. Un mot sur Fatsa Bouyamed. Oui. Le choix de cet acteur a été immédiat, d'une part pour sa capacité à véhiculer à la fois de l'humour et de la poésie, de la sincérité, mais aussi parce qu'il n'était pas connu. Ainsi, le spectateur lambda a vraiment l'impression que ce petit paysan sort du bled avec sa vache.
Crédibilité de l'acteur, mais aussi crédibilité de la vache. Pendant 3 ou 4 ans, Mohamed Hamidi s'est rendu régulièrement au Salon de l'agriculture, où il a vu des centaines de vaches. Son critère dans le choix de Jacqueline était le suivant. L'animal devait absolument être marron pour être crédible en vache algérienne.
Et de plus, comme Hamidi ne pouvait ni amener une vache française au Maroc, où la partie qui se déroule au bled d'Algérien a été tournée, ni une vache marocaine en France, l'équipe a dû choisir 3 vaches identiques, une dans chaque pays, et une doublure au cas où.
Présenté en compétition officielle au Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez, le film a fait l'événement avec ses galères, son décalage culturel, son message d'espoir et de tolérance. Et pour tous ces thèmes, ce road movie réjouissant et quelque peu anachronique à l'heure des blockbusters triomphants est reparti, tenez-vous bien, avec le Grand Prix, le Prix du public, le Prix d'interprétation masculine pour Fatsah Bouyamed et une solide réputation. La musique, elle, est signée Ibrahim Malouf.
Thank you.
tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça.
Eh oui, vous l'avez reconnu, le petit jingle pour les sorties de demain.
J'ai fait le tri, j'ai laissé de côté tout ce qui est comédie romantique, film pour enfants, tout ça. Bon. Et donc, je suis tombé sur une ressortie, en fait.
Ah.
Un film de 91 d'Adrian Lyne, L'échelle de Jacob. Bon, alors, c'est l'histoire d'un employé des postes new-yorkais qui est assailli par des cauchemars durant ses journées. La nuit, il a des flashbacks incessants où il revoit son premier mariage, la mort de son fils, et surtout son service militaire qu'il a effectué pendant la guerre du Vietnam. Voilà, alors jour après jour, il va s'enfoncer dans la folie, tout en essayant de comprendre ce qui lui arrive avec l'aide de son épouse. Voilà, c'est un film de 91, donc L'échelle de Jacob.
De qui ?
Alors, c'est Adrian Lyne. Et c'est avec Tim Robbins, Elisabeth Peña et Danny Aiello. Voilà, c'est un film classé dans le genre épouvante, drame.
Ah, d'accord.
Fantastique. Voilà.
Genre sympathique, quoi.
Voilà. Non, mais comme je ne crois pas du tout au Père Noël, j'ai préféré me baser sur autre chose de plus crédible.
D'accord, ok. Quelque chose de crédible.
Voilà, la guerre du Vietnam, c'est crédible.
Oui, et puis ça a existé.
Oui, oui. Attendez, pour l'instant, oui, mais il y en a des qui
vont. Il y en a d'autres qui se préparent, mais oui. Bon, ça, non, pour le moment, on
n'en est pas là. Certains vont nous dire que ça n'a jamais existé.
Oui, oui, bien sûr, c'est comme des gens qui
ont. Alors, vous, Patrick,
alors moi,
qu'a fait notre air innocent, là, qu'est-ce que vous nous.
Alors, ben, moi, écoutez, je vais vous proposer un documentaire.
Oh, pas des dents.
Oh, ben oui, alors là, vraiment, un documentaire dont j'ai entendu parler, figurez-vous, sur France Inter l'autre jour. Et ça m'a donné envie d'aller chercher un peu plus loin. Il se trouve qu'il sort demain. Le film s'appelle « Le chant des forêts » de Vincent Munier.
Ah oui, qui a fait...
qui avait fait « La panthère des neiges ».
Oui, c'est ça, voilà. Hein,
et alors Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. Et c'est ici qu'il a tout appris grâce à son père Michel, qui est naturaliste et qui a passé sa vie à l'affût dans les bois. Et il est l'heure pour eux de transmettre son savoir à Simon, le fils de Vincent. Donc on a trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx, et parfois, le battant d'aile d'un animal légendaire, le grand tétras, dont d'ailleurs, le dernier spécimen vosgien est mort dans ces dernières semaines.
Ah bon ?
J'ai appris ça ce matin.
Il est mort, de mort naturelle ?
Il est mort parce qu'il a été un peu braconné quand même.
Ah bah voilà, super.
C'est un très très grand volatile, c'est absolument magnifique.
Il y en a dans les Pyrénées,
c'était,
non ?
Du coup ?
Il y en reste encore dans les Pyrénées. Oui. Et du coup, ça s'appelle le chant des forêts.
Oui, ça a l'air très très beau.
Ça a l'air très 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 beau.
D'accord. Voilà. Et vous aimez la nature.
J'aime la nature et pourtant je suis pas rancunier.
Les oiseaux, tout ça, vous aimez tout ça.
J'aime les oiseaux.
Quand ils sont cuisinés.
J'aime bien les canards, oui, c'est ça.
Bon, et vous, attends, Annelise,
oui.
Qu'est-ce que vous nous avez à proposer en tant que cinéma asiatique ?
Non, pas du tout,
ah
ça va être britannique.
Ah, tiens.
Ouais, tout à fait. C'est un film d'animation qui s'appelle La Fabrique des Monstres. Ça a l'air.
Ça parle de nous.
De Steve Hudson et Toby Gunkel. Mmh. Ça a l'air assez sympathique. C'est dans le vieux château de Grottegrain. Un savant fou fabrique, invite, rafistole des monstres farfelus.
Tiens donc.
Petit Cousu, sa première création oubliée avec le temps, sert de guide aux nouveaux monstres jusqu'au jour où un cirque arrive en ville. Son propriétaire cherche une nouvelle attraction et Petit Cousu pourrait bien être le futur star de son cirque. Et donc on va suivre un peu l'histoire de Petit Monstre. C'est un joli film d'animation de Noël avec des monstres gentils et des grands méchants.
Des grands et méchants et des gentils titis.
C'est un film d'animation.
D'animation,
bon, mais
tout à
bien,
fait.
Mais
voilà, un joli panel quand même.
Tout à fait.
Hein bon, d'accord.
Mais ce qui est bien, c'est que le monde, là, le film de Munier est vraiment bien pour les enfants. En plus, c'est la période des vacances.
Ah bah, tout à fait.
Donc
oui.
C'est complètement indiqué pour aller le voir.
Tout à fait.
Voilà.
Et voilà, Ciné 100, oui. Et bien c'est déjà fini.
Oui, je savais, je m'en doutais.
Et oui, enfin, jusqu'à ce que tout recommence.
Bon, bien sûr.
Et vous pouvez sortir de chez vous et continuer à aller petit à petit vers Noël et la nouvelle année. Ah. Mais avant ça, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, mais aussi nous retrouver sur le site d'O2 Radio rubrique Ciné 100 pour les podcasts podcast des émissions passées. Comme beaucoup d'entre vous, nous allons consacrer les semaines à venir à préparer et à réussir nos fêtes de fin d'année. Ainsi, c'est le 6 janvier que nous nous retrouverons pour un nouvel épisode.
Qui sera consacré à l'année 2019 d'ailleurs.
Tout à fait.
Et j'aurai un an de plus.
Et ce sera toujours à 14h sur Eau de Radio 91.3, bien entendu.
Bien sûr. Et alors figurez-vous qu'on va se quitter aujourd'hui exceptionnellement avec la perle musicale du jour.
Comme tous les mardis.
Une musique dénichée par Jean-Jacques qui, j'en suis sûr, sera présente dans nos vies de façon éternelle.
Bon, alors, dit-on se devait de conclure par une chanson animalière.
Oui,
ça devait se...
Oui.
Et alors, ça va être chose faite avec un des tubes de Cinéscent, enfin pour moi, un des tubes, chanté par Eddie Pascal. Bon, Icare se rêvait oiseau, Eddie Pascal se serait bien vu en goéland. À chacun sa galère, comme vous allez le constater.
Allez, en attendant et un peu en avance, joyeuses fêtes
oui,
et bon vent
à tous.
Joyeux portugais, rame tra la l'air, trouve la morue perdue au fond des mers, pendant que tout seul dans le vent, se caillant sans rien dire, un grand goéland se fendait la tirelire. Ah, si j'avais des plumes au cul, je volerais. Volant vacillant, tout en faisant oui, oui, comme un goéland qui tondait sa pelouse, vite en sautillant, arrivé trois barbouzes se lamenta. Ah, si j'avais des plumes au cul, je volerais. Yeah.